Marc Lambron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes académicien. On doit vous dire cher maître.
On peut dire ça.
Beaucoup de gens vous le disent.
Ça me fait plaisir quand c'est les avocats, parce qu'il y a trop longtemps que je les appelle maître, et maintenant c'est mon tour.
Vous êtes l'un des deux seuls quinquagénaires de l'Académie française, vous êtes né en 57, je laisse les auditeurs faire le calcul. Il y aura beaucoup de chiffres dans cette émission, cursus scolaire plus qu'impeccable, Normale Sup, Sciences Po, l'ENA, vous êtes essayiste, écrivain, même si vous avez un vrai métier au Conseil d'État. Vous avez publié L'œil du silence qui avait obtenu le prix Femina en 93, Étranger dans la nuit, Les menteurs en 2004, plus récemment Tu n'as pas tellement changé en 2014, c'est le titre du livre, et en 97, attention les chiffres, 1941. C'était le titre de votre roman sur les débuts du régime de Vichy. Or, vous venez de publier, toujours chez Grasset, 40 ans, votre journal de l'année 97. Donc, quand vous aviez 40 ans, justement, double question, pourquoi cette idée? Pourquoi avoir tenu un journal si complet, 478 pages, et pourquoi l'avoir publié, et seulement maintenant?
Alors, pourquoi tenir un journal? Parce que pour moi, je le prenais comme un genre littéraire. Et j'avais pris des notes éparses, mais jamais, de manière soutenue, je n'avais décidé pendant un an d'essayer de raconter ma vie, et pas seulement ma vie, ce qui se passe dans le biotope mondial, en tout cas ce qu'on peut en percevoir quand on a 40 ans.
Et mondain.
Et qu'on vit à Paris, mondial mondain, si vous voulez.
Et pourquoi l'avoir publié?
Et pourquoi l'avoir publié 20 ans après? Il y a deux raisons. D'abord, c'est l'année, malheureusement, de la mort de mon père, et donc le deuil prend du temps. Et deuxièmement, je le sentais en l'écrivant, un peu paradoxalement, parce que le journal, c'est un genre de l'instantané, c'est comme des photos, et en même temps, qu'avec la patine du temps, ça peut devenir un genre de la rétrospection. Et je crois que le temps est un très bon co-auteur.
On va évacuer « Je est un autre », mais quand vous relisez, vous avez l'impression que le Marc Lambron qui se promène, c'est vous, ou c'est un autre gars?
Je pense à une phrase de Louis Aragon qui disait « À aucun moment de ma vie, je n'ai eu l'âge de mon état civil ». Je crois que nos artères ne définissent pas notre être profond.
Vous avez quel âge dans votre tête, Marc Lambron?
Mon âge intérieur en ce moment, ça varie, hein. J'ai été plus vieux, 19 ans je pense.
On se replace en 97, la rumeur, vous voyez déjà, 1941, lauréat du prix Goncourt, et vous avec, je retire le suspense, vous ne l'avez pas obtenu, mais on vous voit aller dans toutes les fêtes, croiser le petit milieu de l'édition avec cette idée en tête. Alors moi, benoîtement, je pensais que les critiques littéraires lisaient les livres, puis écrivaient leurs papiers, pas du tout. On découvre à la date du 19 août que Josiane Savigno, qui était à l'époque au Monde, la grande dame du journal Le Monde, avait décidé bien avant de flinguer votre livre. Elle lui dit ceci, vous l'écrivez page 244, « J'en ai assez de ces jeunes gens qui n'arrêtent pas d'écrire sur la dernière guerre, cette fois je vais me payer Lambron. »
Oui, alors son interlocutrice lui demande « Mais tu l'as lu ?» Elle dit « Pas encore. » Voilà. Donc voilà comment des exécutions de principe sont, dans une justice sommaire, qui est une injustice littéraire, décrétées dans certains grands quotidiens du soir, en tout cas à l'époque.
Vous l'avez recroisé depuis?
Oui, Josiane Savigno, je l'ai recroisée. D'ailleurs, elle a même écrit du bien de certains de mes livres ultérieurs. Donc là, elle va redécouvrir ses méfaits. C'est pas très bon, la mémoire, parce que ça peut nous refâcher avec les gens avec lesquels on était réconciliés.
Ah non, mais là, vous la sulfatez. Votre réponse est terrible. Vous dites, est-ce que je me mêle d'imaginer ce qu'elle aurait fait en 41?
Oui, parce qu'elle me donne des leçons sur justement le fait qu'on ait envie de se promener dans les années d'occupation. Et je dis, oui, ces deux idoles littéraires, c'est Marguerite Yourcenar et Simone de Beauvoir, qui ont passé respectivement la guerre dans une île américaine et au Café de Flore. Donc sur les leçons d'héroïsme pour les héros positifs ou les héroïnes positives, elle peut repasser.
Dans le livre, vous évoquez la mort de votre frère quelques années plus tôt et la mort de votre père cette année-là. Pourquoi ne pas avoir coupé ces passages? Est-ce que vous avez expurgé ce que vous avez écrit en 97?
Non, pas du tout. Je ne suis pas Staline qui retouchait les photos en fonction de l'histoire et des mutations idéologiques du régime. Non, je crois que le pari de ce livre, c'est vraiment de laisser un bloc de temps tel quel. Je n'ai rien retouché.
Vous écrivez « Mieux valait s'abstenir de tout remixage », référence à la musique. Il suffisait d'introduire le disque dans le lecteur. Oui. C'est tel que.
C'est tel que. C'est les sessions de 97, si on prend la métaphore musicale. Et je n'ai pas remixé, je n'ai pas retouché.
Il y a des choses et des personnes qu'on a complètement oubliées. Par exemple, vous êtes en pamoison devant l'idole de je ne sais plus quelle maison de mode, Stella Tennant. Je l'avais complètement oubliée.
À chaque fois, je me demande pourquoi est-ce que l'époque choisit certains profils, certains types de femmes. Et à chaque fois, il y a une légende et il y a des raisons. Donc je fais un peu de décryptage, je fais un peu de sémiologie, comme aurait dit Roland Barthes, c'est-à-dire la science des signes appliquée à des personnages, à des icônes de l'époque. Stella Tennant, je crois qu'aujourd'hui, elle a 4 enfants, elle est mariée et elle est redevenue l'aristocrate anglaise, petite fille de la famille Mitford, qu'elle était déjà à son époque piercing.
Marc Lambron avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Marc Lambron avec nous, académicien, romancier, essayiste, qui vient de publier un récit, ça s'appelle 40 ans, c'est chez Grasset, et c'est le récit de l'année de vos 40 ans, il y a 20 ans, quand vous publiez en 97 votre roman 1941. Vous désinguez l'écrivain Annie Ernaux. Vous dites ceci, « Ceux qui dénigrent Voici et achètent les livres d'Annie Ernaux sans voir qu'il s'agit là de deux aspects du rapport moderne de la petite bourgeoisie française avec le secret ».
Oui, je crois que chez Annie Ernaux, qui est un vrai écrivain par ailleurs, il y a quand même un rapport, une façon d'exhiber au fond sa vie, qui pour moi a assez à voir avec les tabloïds et l'intérêt qu'on prend à aller voir ce qui se passe dans la vie des autres.
Oui, mais qu'est-ce que vous faites vous-même, Marc Lambron, sinon publier votre journal intime?
Oui, il y a peut-être une différence, c'est le lamento. Je pense que je suis moins géniard que Madame Ernaux.
Ah, donc ce qui vous gêne, c'est le lamento, c'est pas l'intimité.
C'est pas l'intimité, c'est l'exhibition doloriste des tourments de l'individu. Je pense qu'on peut être plus pudique.
Et vous racontez des choses, mais vous êtes sans filtre. Par exemple, sur la rédaction de la vie du journal Globe, le journal que Benamou dirigeait, pour une couverture, il leur fallait une paire de fesses. Et ils ont demandé à une collaboratrice du journal de poser fesses nues sur le champ. Vous confirmez cette histoire?
Ah, je confirme. Je pense que Georges Marc, qui en riait encore des mois après, pourrait vous la confirmer aussi. 20 ans après, je pense que la jeune femme sera contente de savoir qu'elle avait des jolies fesses en couverture de Globe.
En 2014, dans votre livre « Tu n'as pas tellement changé », vous révéliez un secret brûlant qui était la mort de votre frère cadet Philippe, 4 ans de moins que vous, qui avait été emporté par le sida. 140 pages, où pas une fois ne sont écrits les mots « homosexualité » ni « sida ». Pour quelle raison?
J'aime pas, au fond, réduire les gens à leur sexualité. Je crois que mon frère était quelqu'un qui était pluriel, comme nous tous, et assigner les gens à une identité sexuelle, pour moi, c'est toujours restrictif.
Il y a une histoire dans l'histoire. Frigide Barjot, quand elle s'appelait encore Virginie Merle, adorait votre frère Philippe, qu'elle voulait épouser. Et il lui avait répondu ceci, « Cela me semble impossible. » Quand vous l'avez revu en icône de la Manif pour tous, on a appris que ça vous a fait bondir. Pour quelle raison?
Parce qu'elle a, dans plusieurs interviews à l'époque, instrumentalisé la mémoire de mon frère, en disant « parce que j'ai été très proche d'un homosexuel, je ne suis pas homophobe ». Et j'aime pas qu'on fasse parler les morts. Je suis pas sûr que mon frère aurait tout à fait approuvé l'action de Frigide Barjot au moment des Manifs pour tous. Et j'avais pas envie que le profil posthume de mon frère soit confisqué par elle. Et ça a déclenché quelques mois plus tard la publication de ce texte.
C'est pas vrai.
Que j'ai publié.
Votre colère a déclenché la sortie de ce livre?
Bien sûr.
Alors sinon, à part ça, Marc Lambron, vous avez un vrai métier, vous êtes au Conseil d'État. Pardon de sourire, vous faites quoi exactement?
Le Conseil d'État, pour le dire vite, défend ou essaie de défendre les citoyens contre les excès de pouvoir de l'administration que nous avons le pouvoir d'annuler.
Vous avez même raconté dans votre discours de réception à l'Académie française que j'ai lu, que vous aviez dû trancher cette question brûlante. Un maire a-t-il le droit d'interdire une compétition de lancer de nains sur sa commune?
Absolument. D'ailleurs, ça a été interdit. Est-ce que le fait de lancer des nains est attentatoire à la dignité humaine ou est-ce que ça prive les nains de travail? Alors, il faut arbitrer entre les deux.
Nicolas de Taverneau, le patron d'M6, était venu un jour à ce micro et il avait découvert ceci. Le Conseil d'État avait décidé que les filles de dos seraient considérées comme francophones, mais les gens de face, qui parlent dans une autre langue que le français, non. Et il avait appris que c'était vous, Marc Lambron, qui aviez pris cette décision.
Pas exactement, c'est le CSA qui avait engagé des sourds-muets pour chronométrer en lisant sur les lèvres des acteurs s'ils avaient parlé en français ou dans d'autres langues, pour les quotas. Et moi, j'avais au contraire, depuis le Conseil d'État, démantelé cette technique en disant oui, mais les sourds-muets, ils ne voient pas les acteurs qui sont de dos, ils ne voient pas, par définition, les acteurs qui sont hors champ mais qui parlent, et ils n'entendent pas la voix off. Et donc, si on recalculait tout cela, eh bien, c'était favorable à M6, qui a gagné son procès en Conseil d'État et qui a obtenu ses subventions d'aide à la création télévisuelle.
Non, mais ce que j'imagine, c'est comment ça se passe au Conseil d'État. Vous êtes tous là, éminents juristes diplômés, avec des DVD de films érotiques d'M6, du matin 9h au soir 18h. Alors, comment ça se passe techniquement?
En l'occurrence, j'étais le rapporteur, et en effet, à l'époque, c'était encore des VHS. J'avais 8 ou 9 cassettes avec tous les épisodes. C'était un follow-up, comme on dit en français, d'Emmanuel. Et j'avais le loisir justement de revisionner ce que les sourds-muets avaient déjà vu, mais moi en m'exprimant après sur l'affaire, puisque je ne suis pas muet.
Marc Lambron et sa mémoire avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. L'écrivain Marc Lambron avec nous, 40 ans, ce n'est pas son âge, c'est le titre de son ouvrage qui vient de publier chez Grasset, c'est l'année de ses 40 ans, il y a 20 ans. Est-il vrai que vous êtes, j'ai lu ça dans la presse, misogyne?
C'est une dame qui l'a écrit,
oui,
donc c'est faux.
J'ai pas mieux. Pour Joseph Massescaron, Lambron aime les femmes au point de calculer s'il a une chance de rencontrer telle ou telle dans un spectacle, c'est vrai?
Non, j'ai dîné hier soir avec Isabelle Huppert, j'ai même pas eu besoin d'acheter un billet de spectacle, c'était chez des amis.
Dans son discours à l'Académie française, Éric Orsenna vous a qualifié ainsi, une sorte de paparazzo préposé aux jolies femmes, est-ce que vous confirmez?
Oui, c'est comme ça que je me définissais quand je travaillais beaucoup pour Madame Figaro en entretien. Et d'ailleurs, dans le 40 ans, on a des portraits de Claudia Cardinal, de Miu Miu, justement d'Isabelle Huppert, voilà, de belles actrices.
Dans quel état vous étiez le jour où vous avez appris que vous n'obteniez pas le Goncourt pour 1941?
Eh bien, j'avais décidé que si je l'avais, j'offrais à mon épouse des bottes rouges, je crois, si je n'avais pas des bottes noires. Donc, ça s'est soldé par un achat de bottes noires.
Est-il vrai que vous êtes fétichiste des chaussures à talons ?
Ah, j'adore les stilettos, j'adore les jolies chaussures, j'adore les lanières, j'adore la mise en valeur, la sculpture du pied féminin. C'est vrai, comme Rétif de la Bretonne et quelques écrivains.
Est-il vrai que le jour de votre réception à l'Académie française, Marc Lambron, vous aviez des broderies jusque sous la semelle de vos souliers ?
Oui, parce que c'est la maison Berluti qui s'est occupée de moi.
Ouais.
Et en effet, le maître chausseur avait dessiné des lauriers, plus exactement des feuilles d'olivier sous la semelle de mes chaussures.
Est-il vrai que vous avez refusé de présenter une fois par semaine une des soirées du Cercle de Minuit, qui était présentée par Laure Adler ?
C'est vrai, on voulait me confier la soirée qui concernait la vie des idées.
Ouais.
Et comme j'en ai pas beaucoup, j'ai décliné.
Non, pourquoi vous avez dit non ? Vous avez que ça des idées, Marc Lambron.
Parce que je crois pas que je saurais faire, je serais un très mauvais animateur de télévision.
Ouais.
J'ai essayé ça quand j'avais 16 ans sur la chaîne locale FR3 Lyon, une émission enfantine. J'ai fait de la télé avant tout le monde dans ma génération, mais tout le monde en a fait mieux que moi après.
Et alors la case a été confiée à Olivier Mine pour une émission sur la vie des métiers, les rémouleurs, les ouvriers, les artisans de France.
Oui, ben quand quand les intellos démissionnent, c'est l'artisanat qui remonte et finalement c'est pas mal. Petit métier, rémouleur, ça avait aussi un côté un peu pétain, un peu 1941 justement, qui était le titre du roman que je publiais cette année-là.
Vous écrivez habituellement dans Le Point,
oui.
Dans Madame Figaro, toujours ?
Toujours.
Est-il vrai que le New York Times vous avait commandé une tribune sur le feuilleton sentimental de François Hollande ?
Absolument.
Pourquoi à vous ?
Parce qu'il fallait que j'explique aux Américains, en tant que misogyne français, ce qu'il y avait sous cette affaire.
Mais quel point de vue vous avez pris ?
J'avais expliqué qu'il ne fallait pas se formaliser, car nous avions une grande histoire, une grande tradition de courtisanes. Et donc je leur expliquais ce qu'était la cour de Louis XIV, de Louis XV, et que même nos présidents républicains, à part le général de Gaulle et Georges Pompidou, avaient tous été des vers galants.
Est-il vrai que vous avez été batteur de rock ?
Quand j'avais 16 ans et que j'étais lycéen à Lyon, on nous avait prêté une cave et je jouais prétentieusement dans un trio de rock blues.
Ouais.
Moi, je tapais sur des caisses, il y avait un bassiste pas trop mauvais et il y avait un très bon guitariste, mon ami Michel Calfon, qui ensuite est devenu guitariste d'un groupe New Wave lyonnais qui s'appelait Electric Callas.
Ah, je me rappelle, avec Jean-Gilles Callas au chant.
Absolument, avec Jean-Gilles, avec sa grande mèche qui était un Bowie de Rhône-Alpes.
Et vous jouez toujours de la batterie ?
Non, je peux taper sur des caisses si on me le donne.
Mais non, mais vous savez tenir un tempo encore ? Vous savez faire un contretemps, un roulement ?
Bon, avec deux tomes, je peux faire ça, mais c'était vraiment un métronome humain très, très sommaire.
Est-il ouais. vrai qu'un jour, Michel Drucker vous a pris pour l'attaché de presse du groupe Portiched ?
Oui, on sortait d'une projection commune à RTL, il ne me connaissait pas, j'avais le disque de Portiched à la main, je lui monte sur le trottoir, il parlait avec Irène Frein, et machinalement, il l'a pris en pensant que j'étais l'attaché de presse, et puis il ne me l'a pas rendu. Voilà, donc ça m'a coûté un disque de Portiched, je ne sais pas s'il l'a programmé le lendemain sur RTL.
Merci beaucoup Marc Lambron d'être venu nous voir.
Merci à vous.